Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 36 du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui de la sonorisation d'un concert et j'ai enfin réussi à mettre la main sur Frédéric Lefranc, qui est ingénieur du son.
Bonjour.
Salut Frédéric.
Salut.
Frédéric Lefranc, forcément frédériclefranc.com.
Forcément, voilà. De manière très mégalo.
Donc tu as un site web et d'ailleurs il y a pas mal d'informations sur ce que tu fais. On peut même écouter des sons que tu as enregistrés.
Ouais. Mm-hmm.
Et puis tu as aussi une page MySpace qui là est plus orientée vers la photo, myspace.com/frédériclefranc-bandpix.
Alors il y a un site internet de frédériclefranc.com donc qui retrace à peu près tout ce que je fais en son. Il y a aussi un site internet de tout ce que je fais en photo, à savoir que je suis pas forcément photographe, mais ma situation d'ingé son me permet de faire des photos assez intéressantes d'un point de vue où les photographes en général ne sont pas. Donc le site c'est bandpix.net et il y a un MySpace pour les deux qui est, je sais pas l'adresse, mais myspace.com/frédériclefranc et /bandpix quelque chose.
Ouais, c'est Frédéric Lefranc bandpix en un seul mot.
Voilà, donc il y a tout, il y a les quatre.
Alors en gros on peut dire que tu fais le son de quelques groupes en concert.
Je fais le son de quelques groupes en concert, c'est ça.
Est-ce qu'il y a une autre formule pour le dire ?
Je sonorise quelques groupes en concert, je suis des groupes, ou alors je conduis le camion de groupe. Ouais, non, c'est ça, c'est bien ce que t'as dit.
Donc tu suis les groupes, tu fais le son de ces groupes, et les groupes en question, c'est ?
Alors, très majoritairement Résus, depuis 4 ans, je crois, maintenant. Ouais, ça fait à peu près 300 concerts, ce qui est pas mal, voire même bien. Récemment, j'ai bossé pas mal avec Kaolin, en remplaçant Damien Bertrand, qui lui bosse aussi avec Catherine. Et donc, quand il y avait des soirs où il y avait Kaolin et Catherine qui jouaient, lui allait faire Catherine et moi je faisais Kaolin. Ce qui m'a permis de voir des choses que je voyais pas avec Résus, déjà des salles un peu plus pleines parce qu'ils sont disques d'or. Aussi une autre façon d'aborder la musique et le mix, puisqu'ils chantent en français, donc du coup faut comprendre les paroles et ça s'approche d'une manière différente que de faire du Résus où la voix en France en tout cas est un peu plus un instrument et il n'y a pas besoin de comprendre tous les mots pour en avoir la sensibilité. Et puis voilà, et puis ça m'a permis de partir aussi en voyage avec Kaolin en Syrie, c'était très sympathique.
Et donc c'est pour ça que c'est difficile de te mettre la main dessus, parce que finalement t'es tout le temps en tournée avec les artistes.
Je suis assez souvent en tournée avec les artistes quand je ne suis pas. Que tu pourras couper bien sûr mon adresse.
Et justement, si on va sur ton site frédériclefranc.com, on peut voir que tu fais aussi un travail en studio, enregistrement, mixage, mastering, réalisation, production.
C'est ça, quand j'ai le temps.
Ouais.
Et puis quand s'intéresse des groupes, j'ai fait pas mal. J'ai commencé pas mal par ça. Et quand j'ai rencontré Résus, parce que j'ai rencontré Résus en fait en enregistrant leur deuxième maxi qui s'appelait Meanwhile at the Party. J'avais jamais fait de live et c'est eux à ce moment-là qui m'ont proposé de faire du live avec eux. Et moi ça m'a intéressé tout de suite, déjà parce que j'en avais jamais fait et puis que ça pouvait être que très enrichissant pour un ingé son qui commence de partir avec un groupe entre guillemets en devenir, parce que c'est tout ce que les médias en disaient, ce qui a été fait. Donc il y a eu des grands moments de solitude hein, comme dans n'importe quelle découverte de métier, et puis finalement 4 ans plus tard je suis là toujours avec eux et ça se passe plutôt bien, c'est assez drôle.
L'enregistrement, on imagine bien que ça correspond notamment à appuyer sur le bouton enregistrement.
Ça correspond à ça entre autres, oui.
À gérer les prises de son, etc. Le mixage, on imagine tout à fait que tu règles les niveaux de chaque piste les unes par rapport aux autres.
Entre autres.
Deux, trois petites choses en plus. Le mastering, on imagine un petit peu moins en général.
Alors, le mastering, c'est vrai que je suis même pas sûr qu'il y ait marqué mastering sur frédériclefranc.com, mais si tu le dis, c'est qu'il doit y être. Je ferais bien de l'enlever. Le mastering, c'est très, très difficile à expliquer, le mastering en lui-même. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins là-dessus, particulièrement un mec qui s'appelle Bob Katz, qui a écrit 800 pages là-dessus. Et au bout des 800 pages, on comprend pas forcément plus que ce qu'est le mastering. En gros, le mixage, vous vous retrouvez avec chaque instrument sur des pistes séparées. Donc ça peut aller de deux pistes à 100, 200 pistes, etc. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Le but, c'est de faire donc une piste stéréo qui sera sur un CD ensuite. Et cette piste stéréo, une fois que vous l'avez créée en sortie de votre mix, vous allez le passer en mastering. Pour la plupart des gens, ça correspond surtout à beaucoup de musiciens aussi, à faire en sorte que le niveau global, on va parler de volume, soit pas choquant par rapport aux autres disques de l'industrie. C'est-à-dire, vous allez mettre un disque de Madonna dans votre platine, vous allez mettre play, il va y avoir un certain niveau. Derrière, vous allez mettre un disque de Paul ou n'importe qui. Il faut pas que le niveau global soit plus faible. Donc, il y a toute une étape de compression assez subtile, d'égalisation aussi pour que votre disque ne soit pas plus sourd que la moyenne dans tout ça. Et il y a plein de petites étapes comme ça qui font que le mastering est une étape assez essentielle. Il y a toute une approche aussi philosophique du truc, mais ça, je vous laisserai lire le bouquin de Bob Katz.
Ensuite, je disais dans la liste tout à l'heure, réalisation et production, quelle différence fondamentalement ?
Oula, des termes. C'est que des termes tout ça. Production, c'est au sens, en France en tout cas, financier de la chose. Un producteur en France, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre de l'argent. Donc c'est souvent des maisons de disques si vous êtes signé. Soit on parle d'autoproduction quand c'est le groupe qui finance son enregistrement. Le côté réalisation, c'est plus aborder l'enregistrement du groupe avec le groupe, faire une préparation avec avant, leur expliquer par rapport à moi, mon expérience, ce que je pense bon, ce que je pense mauvais par rapport à leur chanson. Je peux rentrer en compte dans la composition du morceau sans forcément leur dire joue telle guitare là, mais dans la structure des morceaux, sur les tempos, sur ce genre de choses, sur l'intention par exemple d'un chanteur qui va chanter, il va parler de quelque chose, par exemple, en pensant à sa copine, il va pas avoir la même attention que s'il pense au décès de sa mère et tout ça. Et ça aurait été peut-être plus intelligent qu'il pense au décès de sa mère ou à la séparation avec sa copine. Je sais pas, selon le morceau, l'intention peut être intéressante. Et c'est bien d'avoir quelqu'un en retrait de tout ça pour dire là, fais attention, tu ferais peut-être mieux d'essayer de faire ça, etc. Après, les termes sont assez bizarres parce qu'au dos des CD, on retrouve souvent production, telle personne, et cette personne a fait justement un travail de réalisation et non pas de production. Il y a un peu un amalgame entre plusieurs termes parce qu'en Angleterre ou tous les pays anglophones, on dit producer pour dire réalisateur. Et donc du coup, producer, producteur, on fait souvent
En France, le producteur, c'est celui qui finance.
Ça devrait, en tout cas. Mm. Voilà.
Et donc celui qui fait la production, en fait, c'est le réalisateur.
C'est un peu ça, quelque part. En même temps, celui qui finance, il aime bien avoir son mot à dire. Donc quelque part, c'est un peu un boulot qui peut éventuellement se rejoindre selon le domaine. Après, on ne parlera pas du producteur de la même manière dans un groupe de potes ou chez Madonna, par exemple.
On va passer à la préparation de la sonorisation d'un concert. Mm-hmm. Avec qui tu as des contacts en particulier au moment où le projet commence ?
Alors le projet commence déjà des mois avant le concert, où en fait l'équipe avec laquelle moi je tourne, les gens avec qui je travaille, il y a un tourneur, donc qui est la personne qui va trouver le concert, c'est souvent une société à part qui travaille avec le groupe. Dans l'exemple de Résus, il y a un régisseur, donc qui est avec nous dans le camion, qui est responsable du fait qu'on arrive à l'heure au concert, que tout se déroule bien. C'est lui qui est censé gérer tous les problèmes sans que les musiciens aient à en entendre parler pour qu'ils puissent faire un concert dans de bonnes conditions. C'est celui qui va s'occuper de récupérer de l'argent, par exemple. Toutes les questions un peu chiantes à répondre, c'est lui qui s'en occupe. C'est un boulot un peu nul. Donc il y a un éclairagiste, moi qui fais le son, et les trois musiciens. Et donc, une fois que le concert est trouvé, le régisseur s'occupe de préparer le concert en envoyant ce qu'on appelle un rider au promoteur du concert, donc c'est celui qui organise le concert. Le rider, c'est une feuille avec marqué, en gros, il y aura ça dans les loges, il y aura ça sur scène, on a besoin de 4 bouteilles d'eau, on a besoin de 2 serviettes, il y a une végétarienne dans le groupe, il y en a 2 qui mangent pas de fromage, tout ce genre de petits trucs pour que la journée se déroule très bien. Il y a aussi la contrepartie, le groupe sera là à telle heure, il fera ça, il jouera tant de temps et tout ça. Et donc là-dedans, il y a dans le rider ce qu'on appelle la fiche technique. Donc c'est une feuille que moi j'ai faite en fonction du groupe, des micros que j'ai besoin, de la diffusion que j'ai besoin, dont j'ai besoin, de la console, des périphériques externes, etc. Et donc le régisseur envoie ce document au promoteur qui lui le distribue après au responsable technique de l'organisation. Et ensuite je rentre en contact avec la personne qui s'occupe que de la technique. Donc ça se passe entre une semaine et deux mois à l'avance au téléphone pour savoir si lui a bien tout, s'il a pas tout, qu'est-ce qu'on peut trouver pour arranger un peu. S'il n'a pas tel micro, quel micro on peut mettre à la place, etc. Donc dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Et puis de temps en temps, on tombe sur des gens qui n'en ont rien à foutre, voire qui n'ont même pas appelé. Ça peut arriver d'arriver dans une salle où on n'a pas réussi à avoir le mec au téléphone avant. Il peut y avoir des moments de bon énervement, voire même d'annulation de concert pour ce genre de raison. C'est pas tous les gens non plus. Et donc à partir du moment où on a vu tout ça, nous on arrive à la salle de concert, donc dans l'après-midi, pour faire les balances. On fait nos balances, donc c'est ce qu'on appelle la préparation. Hein.
C'est dont on va parler, ouais.
Et les balances, ça se déroule en plusieurs phases. Il y a l'installation du matériel. Une fois que le groupe est installé.
On va détailler tout à l'heure, ouais.
Ok.
Et est-ce que tu as un contact particulier, par exemple, avec le manager ?
Du groupe ?
Ouais.
Oui.
Ouais.
Mais pour les concerts, il intervient que très peu, parce que le manager, c'est pas.
Il suit pas la tournée.
Il suit la tournée, mais on va dire entre guillemets depuis son bureau. Il y a ce qui pourrait être le délégué du manager, qui est le régisseur ou le tour manager, qui est cette personne qui envoie le rider, etc. C'est un peu le délégué sur la route du manager.
Et finalement, ton employeur, c'est qui ?
Ça dépend des groupes, mais c'est le tourneur. C'est le tourneur. C'est, les fiches de paye sont au nom du tourneur.
Donc le tourneur, on peut aussi dire producteur du concert.
Non, parce que le concert, en fait, c'est
une coproduction.
Il y a plusieurs cas de figure. Il y a soit la production, auquel cas c'est le tourneur qui va donc payer une salle pour avoir la location de la salle, et auquel cas c'est lui le producteur. Soit il vend une session, en fait, ce qu'on appelle un contrat de session, où il va vendre le spectacle d'un artiste à un producteur qui lui après s'occupera de tout. Ou la coproduction, et là il se partage en parlant de pourcentage, et ça c'est un autre boulot qui est franchement pas intéressant non plus.
Et le tien, justement, de boulot, c'est ingénieur du son, régisseur son, il y a plusieurs...
Je crois que c'est technicien son.
Technicien
ou
son.
Ou régisseur son, je sais plus, ça doit dépendre des fiches de paie. Ouais.
Mais en gros, c'est...
C'est tourner des boutons.
Tourner des boutons.
Le terme ingénieur du son en lui-même, je crois bien qu'il n'existe pas en France, et c'est ça aussi une dérivation de l'anglais sound engineer, qui ne veut pas dire ingénieur, mais technicien ou opérateur. Et en France, on s'est un peu accordé le luxe du bac plus 5 de l'ingénieur pour se donner une quelconque crédibilité auprès des banquiers et autres agents immobiliers. C'est plus facile d'être ingénieur que technicien.
Est-ce que c'est important de connaître vraiment très bien la musique qui va être jouée pendant le concert ?
Alors ça, je pense pas. Moi, avant d'avoir fait du son, j'ai fait beaucoup de musique. Ça doit faire, 15 ans que je fais de la musique. Donc moi j'ai une approche très musicale du truc, je le fais par amour de la musique avant tout. Après je prends l'exemple d'un type qui s'appelait Léo Fender, qui a inventé la Fender et tout ça, qui savait pas accorder une guitare, et pourtant il en a fait quelque chose d'incontournable dans le milieu. Et je connais beaucoup d'ingénieurs du son qui savent pas jouer de la guitare, qui savent pas jouer de piano, qui savent pas ce que c'est qu'une gamme, et pourtant ils sont très forts. C'est plusieurs approches, on peut très bien faire les deux.
Est-ce que tu peux, en gros, dessiner le panorama du matériel que tu rencontres au moment de la sonorisation d'un concert, peut-être en commençant par la console ?
En gros, ouais. Alors, en gros, il y a une console, en général assez gros, puisque ça, en général, il y a plusieurs groupes, où il y a au moins un groupe, et un groupe correspond en gros à 20 entrées, ou voire 20 micros. Donc, en général, c'est des bons paquebots qui pèsent assez lourd et qu'on bouge pas comme ça. Donc il y a la console, il y a tous les micros sur scène qui sont reliés par ce qu'on appelle un multipair à la console.
Donc un gros câble qui finalement contient beaucoup.
Voilà, un gros câble d'une grosse section avec plusieurs petits câbles à l'intérieur. Sur le côté de la console, il y a ce qu'on appelle les racks. Donc il y a plusieurs trucs, il y a des compresseurs, Il y a des gates.
Donc c'est comme des armoires avec des,
voilà,
des effets
c'est
dedans.
C'est des armoires qui chauffent avec des effets particuliers qu'on a demandé sur la fiche technique. Il y a des reverbs, il y a des délais, il y a des égaliseurs, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et ce que je viens de dire, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans tous. C'est une base.
Ensuite, il y a des haut-parleurs, des enceintes.
Après, il y a la diffusion qui correspond plus ou moins en général au lieu. Ça, dans le cas d'un Resus, j'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus, dans le sens où les clubs dans lesquels on va jouer, ils ont souvent leur diffusion à eux et ils vont pas en louer une autre pour ce genre d'événement. Par contre, on peut demander à ce que ce soit adapté, on peut demander à ce qu'il y ait une réorientation des enceintes pour une meilleure diffusion dans la salle, pour que ce soit plus homogène.
Donc il y a les enceintes en façade.
Il y a les enceintes en façade pour le public et les retours qui sont orientés vers les musiciens pour que les musiciens eux aussi s'entendent.
Comment est-ce que tu contrôles le son ? Avec un casque ou...
Alors,
tu mets jamais un casque sur les oreilles ?
Ah si, si. Ça dépend. Contrôler le son, quand tout ce qui se passe en façade, en général, je le fais à travers la façade. Donc je vais par exemple faire une grosse caisse sur la façade, puis faire la caisse claire, donc ça c'est pendant les balances, chaque micro indépendamment. Et une fois que ça joue par exemple pendant le concert et que j'entends un problème quelque part et que j'arrive pas trop à déceler d'où, là je mets mon casque et j'écoute chaque tranche en solo. Ce qu'on appelle le solo, c'est un petit bouton qui est à côté de la tranche où quand on va appuyer dessus dans le casque, on entendra que cet instrument là. Et donc je vais essayer de régler les problèmes en général au casque ou essayer d'écouter par exemple les effets que j'envoie, toutes les reverbs, les délais, les petites choses comme ça, essayer de les régler de manière discrète avant de les envoyer et donc au casque pour pas avoir à envoyer des délais qui sont pas dans le tempo que tout le public entende jusqu'au moment où j'ai réglé le problème.
Sur scène, il y a évidemment des micros, il y a plein de câbles et il y a aussi plein de petites boîtes qu'on appelle des boîtes de direct. En gros, ça sert à quoi ?
Ah, ça c'est une bonne question, je sais pas. En gros, ça sert à symétriser un signal. On peut essayer de vulgariser l'utilité de l'objet en se disant que ça permet de véhiculer un signal sur une portée beaucoup plus longue.
Comme un relais alors ?
C'est un peu un relais. Par exemple, vous allez mettre sur une basse, donc le câble qui va sortir de votre basse électrique, il y a une phase, une masse, donc il y a deux fils, et vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une DI. Direct in, je pense.
Ouais, boîtier d'injection.
Voilà, boîtier d'injection, ouais. Et en fait, de cette boîte va sortir trois fils, donc la phase inversée et une masse autour. Et le fait qu'il y ait une phase et une phase inversée, donc vous allez pouvoir traverser plein de petits parasites. Et une fois que vous arrivez de l'autre côté, donc en général à la console, ces deux phases sont réinversées. Enfin, une des deux est réinversée, ce qui fait que ça annule en fait tous les parasites. C'est assez compliqué à dire dans le sens où je l'explique pas tous les jours.
Ouais.
Je sais que j'ai l'habitude d'en mettre une sur une basse par exemple, et c'est vrai qu'à expliquer, j'ai un peu de mal.
Alors oui, effectivement, ça augmente la portée parce que le signal est
est protégé par un système quelconque.
Et en plus, ça fait un peu aussi multiprise parce que on peut, en plus d'envoyer le son vers la console, le réinjecter dans un ampli sur scène.
Alors, je sais pas si on peut appeler ça c'est une multiprise, ouais. En fait, on va rentrer dans la DI avec sa basse, il va y avoir une sortie qui va permettre à la basse d'aller dans son ampli et une autre sortie qui va permettre de prélever le son, l'électricité, le signal électrique, de le prélever en sortie de basse plus que à l'ampli. Et ensuite, on peut rajouter aussi un micro sur l'ampli.
Et en parlant de multiprise, il y a aussi ce qu'on appelle le boîtier de scène sur lequel est branché le câble multipaire dont on parlait tout à l'heure.
Ouais. Donc c'est une espèce de grande multiprise à rallonge.
Et donc il y a un certain sport qui consiste à ne pas se tromper au niveau des numéros d'un côté sur la scène et de l'autre côté sur la console.
Alors je sais pas si c'est un sport parce que une fois qu'on est sur scène et qu'on branche un micro, à partir du moment où on sait où on le branche, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai qu'il y a pas longtemps, je discutais avec une nana à la fin d'un concert qui me disait que elle, ce qui l'a fascinait, c'était le nombre de câbles et le fait qu'ils soient tous branchés à des endroits sans que personne se soit trompé. c'est vrai que je me rappelle aussi quand j'étais petit et que j'allais voir des concerts et des trucs comme ça et que j'y connaissais absolument rien. Ça me rappelle aussi une certaine fascination que je pouvais avoir là-dessus, ou comment ils font pour pas se tromper. J'ai envie de dire, il y a des chiffres dessus et c'est simple.
Tout simplement.
C'est très simple.
Et est-ce que ça t'arrive de venir avec du matériel personnel, enfin, ou des choses que tu transportes tout le temps avec toi? Peut-être que tu as toujours ton casque ou...
Alors, je viens toujours avec mon casque. Je viens toujours avec ce qu'on appelle un décibelmètre pour voir le niveau sonore. En France, on a une législation qui limite à 105 décibels. Donc, je viens toujours avec le mien parce que quand l'organisateur pense que vous êtes un peu fort, qu'il vient vous voir avec son décibelmètre et qu'il vous dit « Regarde, t'es à 106, faut que tu baisses », si son décibelmètre n'est pas calibré correctement, ça ne veut absolument rien dire. Donc du coup, moi j'ai le mien aussi, que je sais calibrer, que je calibre régulièrement. Et donc je peux lui dire « Eh non, regarde, je suis à 104, c'est toi qui dis n'importe quoi ». Bon, après on rentre aussi dans des longues discussions. Je viens avec ça, donc mon casque. J'ai certains micros aussi que je prends toujours avec moi.
En secours ?
Non, que j'utilise en principal. Un particulièrement chez Resus, c'est un micro que je passe sur la guitare. Un gros micro comme ça que j'aime beaucoup.
Des câbles aussi peut-être ?
Aucun.
Des boîtes de direct peut-être ?
J'en ai une au cas où le lieu est des DI Behringer. Pour ne pas avoir à faire une DI Behringer sur la basse par exemple, donc j'en ai une toujours avec moi. Et dans le cadre d'un Kaolin par exemple, donc là c'est le groupe qui se balade avec ça, pour l'ingénieur du son, il y a tout un rack avec un préampli pour la voix, avec des compresseurs pour la voix et pour la grosse caisse. Après ça dépend qui s'en charge et où il va le brancher, mais il y a toute une armoire qu'on transporte avec nous aussi avec Kaolin.
Au niveau des micros, il y a des micros qui sont alimentés, d'autres qui ne le sont pas.
C'est ça.
Statique, dynamique.
C'est ça.
Quelle différence fondamentale ? Et quelle influence sur la scène, sur la captation du son ?
Alors la différence fondamentale, un micro dynamique va être beaucoup moins sensible qu'un micro alimenté et donc statique. Il va être aussi plus fragile, voire beaucoup plus fragile. Après, sur scène, on utilise beaucoup de dynamique parce que...
Donc non alimenté.
Parce que c'est beaucoup plus maîtrisable qu'un statique. Après, ce que je dis, c'est un petit peu faux et je pense que si des ingénieurs du son écoutent cette interview, ils vont se dire « Mais non, ils racontent n'importe quoi ». Oui, je raconte n'importe quoi, mais c'est moi qui suis interviewé. Les statiques, en général, on va les placer sur des overheads, donc sur des cymbales, sur tout ce qui a beaucoup de... qui monte beaucoup dans les aigus, qui a beaucoup d'harmoniques, qui a besoin d'un peu plus de précision qu'une basse ou qu'une guitare. Après, ce que je viens de dire, c'est un peu nul dans le sens où le micro dont je parlais, que je trimballe sur ma guitare, c'est un statique. Donc on peut mettre des statiques un peu partout et on a tendance en ce moment à en mettre de plus en plus d'ailleurs.
Et quel avantage fondamental à ce niveau ?
L'avantage fondamental, c'est que c'est beaucoup plus sensible. La gamme de fréquences que ça va pouvoir capter sera beaucoup plus large et beaucoup plus plate que celle d'un micro dynamique. On n'aura pas les défauts d'un dynamique qui sont, par exemple, le micro qui a très souvent sur des voix. C'est un Shure SM58. Il a une espèce de petite bosse dans les aigus qui permet à la voix de faire un peu plus briller, et une petite bosse dans le bas pour avoir une voix un petit peu à la Howard Stern. C'est très pratique sur une voix parce que c'est ça qu'on recherche, c'est une voix claire, brillante, etc. Ça par exemple, vous le mettez sur une guitare, ça va rajouter un petit côté agressif à la guitare, plus une espèce de petite bosse dans le bas qui va faire ouh sur la guitare. Et ça peut être quelque chose qu'on peut rechercher. Si c'est pas quelque chose qu'on recherche, on mettra un autre micro et peut-être un statique.
Et en fonction donc du type de micro, alimenté ou pas, statique ou dynamique, tu vas activer ou pas l'alimentation de...
Sur la console, sur chaque tranche, il y a marqué 48 volts ou fantôme, ce qu'on appelle une alimentation fantôme, et il y a un petit bouton, on appuie ou pas. Ouais.
Et tu peux aussi avoir des instruments branchés directement sur la console.
À part le cas de la DI pour la basse qu'on récupère... Mmh. Moi, j'ai jamais croisé d'instrument branché directement sur la console.
Donc, peut-être une guitare acoustique, ça arrive des fois ?
Par une DI aussi.
Oui, donc on branche l'instrument sur la boîte de direct,
c'est
qui
ça.
Elle-même est branchée
sur la console.
Sur la console. Et à ce moment-là, tu récupères...
le signal du préampli de la guitare acoustique. Donc, il y a un petit micro dans la guitare acoustique. qui sort avec un petit préampli de plus ou moins bonne qualité. Et là, il y a un câble qui va jusqu'au bout de la boîte de direct. Et là, je récupère ce qui sort de la boîte de direct, et ce qui est en général une guitare acoustique très LED, et qu'on modifie après avec tout ce qu'il y a dans les armoires qui chauffent à côté, ou avec les tranches, avec un égaliseur, on en fait un petit peu ce qu'on veut ou ce qu'on peut.
Mais dans une basse, il n'y a pas de préampli en général, donc à ce moment-là, tu récupères un signal
plus faible, ou alors on utilise une DI active qui, elle, relève un petit peu le niveau.
Alors, on en arrive à la balance. En gros, comment tu définis cette phase ?
J'ai envie de dire importante, mais pas tout en étant dispensable. Ça arrive assez souvent que, par exemple, vous êtes un jour en Bretagne et le lendemain, vous jouez à Marseille. Si vous avez 11 heures de route à faire, il faut se lever à 4 heures du matin. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour les musiciens pour qu'ils soient en forme pour faire un concert. Donc on va partir un peu plus tard et on va zapper un peu cette phase de balance.
Elle consiste à quoi en gros ?
La phase de balance,
ouais.
À régler et à faire en sorte que dès que le concert commence, il n'y a plus rien à régler. Donc tout ce qui est balance des instruments les uns par rapport aux autres, que ce soit sur scène ou à la console, l'égalisation,
donc le mixage
est pré-mâché en fait pendant les balances pour que le concert, il n'y ait plus qu'à suivre le concert comme on le fait tous les soirs et qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Il y a toute une phase de préparation, de vérification, etc. Mais c'est pas, ça peut être dispensable, on peut faire ce qu'on appelle un line check, c'est-à-dire arriver 5 minutes avant le concert, brancher tout et faire au plus vite et croiser les doigts pour que tout marche. Ça se fait souvent.
Au moment où tu arrives dans la salle, chaque salle a sa propre acoustique, comment tu fais pour t'y adapter ? Tu te jettes sur l'égaliseur paramétrique
Alors je me jette sur l'égaliseur graphique, ouais.
Ouais.
Donc en général j'arrive et avant qu'il y ait quelconque son qui sorte d'un ampli de musicien, je mets un CD que je connais par cœur puisque je le sors tous les jours à chaque concert avec quelques chansons que j'ai choisies moi, que je connais sur le bout des doigts autant fréquentiellement que sur la dynamique, etc. Et puis je le lance et puis je vois comment ça réagit et je vais régler fréquentiellement en tout cas la diffusion par rapport à la salle pour que les aigus soient moins agressifs, moins présents, que les basses tournent pas trop, qu'il n'y ait pas une résonance trop gênante. Après, c'est dur de s'adapter à la salle, et c'est encore plus dur d'adapter la salle. En général, on fait avec et on croise les doigts pour qu'il y ait du monde et que ça absorbe le maximum possible si la salle est résonante. Puis il y a le cas inverse aussi de la salle qui est trop adaptée, ou qui ressemble plus à un gros studio de radio en général, où chaque son est super mat, il n'y a aucune résonance, il n'y a aucune vie, et c'est super dur de bosser dans ce genre de conditions.
T'es obligé de rajouter de la reverb
et en général ça suffit pas trop. On est tellement habitué à être dans des clubs qui ont des défauts et une vie et qui vivent avec la musique que dès qu'il y a quelque chose où il n'y a plus de défauts, ben, on se retrouve un peu perdu.
On disait que la balance, il y a notamment le mixage pour la façade, mais il y a aussi le mixage pour les retours des musiciens.
C'est ça. Ça peut être fait soit par une autre personne que moi qui serait un ingénieur retour. Donc il y aurait une autre table de mixage sur le côté de la scène et lui s'occupe uniquement de ce qu'entendent les musiciens dans les retours. Soit c'est fait par moi via les sorties auxiliaires de la console. Donc c'est des petits boutons qu'on tourne bêtement et ça, on gère uniquement le volume de la tranche vers un retour. C'est un peu un travail d'aiguillage à la SNCF, mais ça marche très bien. En général, c'est plus pratique que quelqu'un d'autre le fasse.
Dans cette phase de balance, tu dois aussi sûrement paramétrer les effets.
Mm-hmm.
Ça, tu le fais en fonction du son que souhaite avoir le groupe.
Alors il y a tout un travail, moi je suis des groupes, donc il y a des gens qui accueillent des groupes dans des salles, et quand ils n'ont pas d'ingé son, qui font le son. Moi, je tourne avec des groupes, donc il y a aussi avant tout ça, tout un travail de préparation du concert, ce qu'on appelle des répètes montées ou des résidences, où on est pendant une semaine dans une salle de concert vide, et on travaille le concert, autant le son que les lumières, que sur scène, que la disposition des amplis, que l'enchaînement des chansons, c'est tout un truc préparé. C'était quoi la question ? Ah oui, les effets.
Oui. Dans quelle optique ?
Alors, il y a ce qu'on peut appeler des... Enfin, ce que j'appellerais des effets un peu techniques On va mettre une reverb, non pas par exemple pour enjoliver un son, mais juste pour régler un problème ou pour aider quelque chose. Une reverb, par exemple, sur une caisse claire, ça sera pas forcément. Donc, qui fera plus. Bah, je fais très mal la caisse claire réverbérée, mais. Ça sera pas forcément un effet dans un but esthétique. Ça peut être pour réussir à placer l'instrument dans un espace stéréophonique, pour le placer dans la profondeur du mix, etc. Après, il y a des effets plus subjectifs et plus produits, comme par exemple un délai qu'on pourrait mettre sur une voix ou en dub. Ça se fait beaucoup mettre des délais sur les caisses claires. Quand vous allez taper sur la caisse claire, ça va faire pa 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 pa. Ça, c'est d'un point de vue vraiment artistique. Et là, en général, l'ingé son soit le fait de lui-même en ayant un groupe qui lui fait confiance, et donc il est quelque part un peu considéré comme un plus produit aux musiciens, soit c'est des effets qui sont préparés, où un groupe, par exemple, va me dire à tel endroit, ce serait bien qu'il y ait un délai, qu'il répète ce que je viens de dire, etc. Et auquel cas, moi, je vais le lancer à ce moment-là.
Pendant le concert. Ça veut dire qu'il faut le préparer avant.
Ça veut dire qu'il faut le préparer avant et suivre le concert.
Comment tu gères le Larsen ?
Alors, le Larsen, ça dépend duquel. Il y a le Larsen...
Comment tu gères les Larsen ?
Les Larsen. Il y a les Larsen esthétiques, déjà, qui sont le guitariste qui va se retourner près de son ampli et qui va arracher la gueule de tout le monde.
Il l'aura bien cherché, là, à ce moment-là, le Larsen.
Voilà, et donc ça
sera volontaire.
Absolument pas le couper, voire limite juste un petit peu le maîtriser, histoire que ça fasse pas trop mal. Après, il y a le Larsen, un micro avec un...
Donc le maîtriser, à ce moment-là, c'est avec un limiteur, par exemple ?
En général, on va pas essayer de mettre un limiteur en se disant bah tiens, il y a un Larsen ou il va faire un Larsen, il faut que je mette un compresseur ou un limiteur. En général, on garde la main sur le fader donc qui correspond au volume. Et si on voit que ça commence à devenir un peu douloureux, on baisse ou on pousse selon ce qu'on a envie de faire.
Donc là, encore une fois, pendant le concert.
Pendant le concert, il y a tout un suivi, tout un déroulement. En général, en début de tournée, quand on connaît pas trop bien encore le concert qu'on a préparé, on a une conduite, donc c'est un papier, une feuille où on a marqué à tel endroit il se passe ça, à tel endroit il se passe ça, à tel moment il se passe ça. Ça se fait énormément en théâtre aussi, ça se fait beaucoup plus en théâtre d'ailleurs. Et une fois qu'on le connaît le concert par cœur, après ça se fait naturellement.
Et il y a aussi les Larsen, donc involontaires.
Voilà, ou quand par exemple vous avez un micro de voix. Le chanteur va chanter dans son micro, il a ses retours qui lui redistribuent aussi ce son de voix pour qu'il puisse s'entendre. Si vous le mettez trop fort, il va y avoir le retour qui va revenir dans le micro et donc il va se créer une boucle, et ce qui fait l'effet de Larsen, c'est super désagréable. Et en général, ça correspond à une ou plusieurs fréquences très distinctes, donc avec un égaliseur graphique qu'il y a comme sur la face en concert, il y en a sur chaque retour. Et en général, on peut couper cette fréquence pour qu'elle ne revienne pas. C'est souvent une ou deux fréquences qui accrochent dans le retour. Après, s'il y en a plus, c'est que vraiment le chanteur chante pas fort et qu'il demande à beaucoup s'entendre. Et là, ça devient problématique et on le gère pas forcément.
Mais pour le gérer, ça veut dire que tu provoques le Larsen.
Tu provoques le Larsen pour identifier la fréquence qui accroche. Et cette fréquence, ensuite, avec l'égaliseur graphique...
Donc il y a quelqu'un qui va sur scène et qui, pendant la balance, provoque le Larsen.
Ça se fait très bien de la console aussi, hein. T'as juste à pousser le volume et
d'accord.
Ça part tout seul.
Et tu n'utilises pas de boîtier spécial ?
Alors j'ai vu que ça existait, je me rappelle que j'avais vu ça quand je faisais de la musique, il y avait des feedback destroyers, voilà. Ou des trucs comme ça. J'en ai jamais vu sur scène, enfin, j'en ai vu dans des magasins, j'en ai vu sur des trottoirs pendant la fête de la musique. En concert, j'en ai jamais vu et j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin.
Alors, tout le monde sait que le son va moins vite que la lumière et ça peut poser des problèmes dans un concert. C'est-à-dire que il peut y avoir des retards du son, notamment dans des grandes salles.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que si on a des haut-parleurs qui sont devant, en façade, et des haut-parleurs qui sont derrière, si on envoie le même son, ils vont être décalés.
C'est ça. Donc, quelqu'un qui va entendre en priorité... ce qu'on appelle des rappels, donc quelqu'un qui sera à l'arrière d'une salle de concert assez longue, donc il y aura plusieurs relais de son. Si ces enceintes ne sont pas délayées, ce qu'on appelle délayées, c'est-à-dire retardées dans le temps, la personne qui va entendre ça va entendre soit un délai, c'est-à-dire le son de la face, puis celui de ses le son des enceintes, puis le son de la face.
Dédoublé donc.
Voilà, donc dédoublé. Soit quelque chose de complètement déphasé avec un manque de grave, des aigus soit super agressifs, soit complètement sourds. Ça va créer plein de merde. Et puis en général, l'ingénieur du son qui est dans la salle aussi, lui, ça le fait bien chier aussi. Et donc les enceintes sont délayées. C'est, donc je me rappelle plus de la formule parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu mes cours. Mais il y a une formule, on délaye de quelques millisecondes pour que quelqu'un qui entend les enceintes délayées entende la face aussi en même temps.
Et ce réglage se fait où précisément ?
Et ce réglage se fait sur un filtre qui est soit à côté des amplis, donc sur scène des amplis de la face, etc., soit à côté de l'ingénieur du son, qui a un filtre qui paramètre tout le système de son de la salle.
Est-ce que des fois t'enregistres ? Est-ce que tu mets du matériel au moment où tu t'installes pour enregistrer ?
Alors ça m'est arrivé de le faire. Il y a deux manières de le faire, soit récupérer chaque tranche séparée, et donc auquel cas bah, on a besoin déjà d'un enregistreur avec le nombre de pistes souhaitées. Et chaque tranche a une sortie direct out qui correspond juste à la sortie directe de cette tranche-là. Donc dans une tranche de grosse caisse, il y aura dans le direct out que de la grosse caisse. Et donc on retire tout ça et on le récupère sur un enregistreur. On enregistre pistes séparées pour pouvoir faire le mix après chez soi. Soit on enregistre la sortie stéréo de la console, qui en général correspond pas forcément à ce qui se passe dans la salle, parce qu'on n'a pas le jeu entre ce qui sort de la façade et ce que les musiciens font sur scène qu'on entend aussi.
Il manque le public,
il manque déjà le public, il manque les instruments pas beaucoup sonorisés, et il y en a qui sont beaucoup trop présents. Donc en général quand on fait ça, on met donc deux micros en sortie de console plus deux micros dans la salle pour avoir un son global d'ambiance qu'on reprécise derrière avec le son de la sortie directe de la console.
Donc ça fait deux pistes stéréo qui sont mixées.
Ça fait deux pistes stéréo, donc quatre pistes mono. Ouais.
On passe au concert. Tu me disais que tu avais une conduite, donc en gros ça doit être la liste des morceaux. Alors, et puis des indications techniques.
Voilà, c'est ça. Je l'ai plus maintenant parce que je connais les morceaux par cœur. Au bout de 300 fois, ce serait bête quand même. Mais y a des moments précis où je sais que je vais envoyer un délai, une reverb ou quelque chose comme ça. Il y a des moments précis où je sais que je vais couper tel instrument parce qu'il va gêner. Y a tout un déroulement qui se fait.
Tu modifies le mixage pendant le concert, par exemple pour couper un instrument.
C'est ça, ou le mettre en valeur.
Ou limiter un larsen un peu trop moyen.
Par exemple.
Donc tu peux lancer des effets, peut-être sur une voix pendant un refrain, des choses comme ça.
Ou juste sur un mot, ouais.
Ouais, juste arriver. Sur un mot.
Juste sur un mot qu'il faut souligner, un mot par exemple qui va arriver en fin de chanson. Le chanteur va terminer un mot et la chanson va s'arrêter. Si c'est désiré, ça peut être intéressant de mettre un délai juste sur ce mot pour que derrière la chanson, ce mot soit répété.
Ça t'arrive d'oublier ?
Ah, complètement, oui. Ça arrive de le mettre sur le mauvais mot aussi.
Donc faut bien avoir l'attention.
L'attention et les mains prêtes, ouais.
Et est-ce qu'il y a des changements de configuration parfois pendant le concert ? Est-ce que, par exemple, il y a des musiciens qui partent, des musiciens qui arrivent ?
Ça peut arriver si le groupe fait ce qu'on appelle un featuring ou qu'ils invitent quelqu'un à participer, c'est pas tous les jours. Mais ouais, ça peut arriver.
Ça
c'est préparé aux balances.
Ouais.
Et tous les micros qui serviront à cette personne seront mis en place avant. Et les réglages seront faits avant. Donc la personne peut arriver ou ne pas arriver. C'est comme si elle est, pour moi en tout cas, c'est comme si elle était là depuis le début du concert.
Simplement avant, les niveaux étaient coupés. Tu les montes au moment où elle
exactement,
est là.
Exactement. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres manipulations que tu fais pendant le concert ?
À part suivre la conduite. Et discuter avec l'éclairagiste qui est à côté, qui est très drôle. Là, il n'y a rien qui me vient.
D'accord, tu dis ça parce que tu travailles en général toujours avec le même éclairagiste.
Je parle toujours là dans le cas de Résus, oui.
Ok.
Voilà. Je dis bonjour donc à Nicolas, qui s'appelle comme toi.
Salut Nicolas, voilà. Je passerai peut-être te voir un jour si jamais j'arrive à t'attraper. Alors, après le concert, qu'est-ce qui se passe en gros ? Alors, ranger ?
Ah, exactement. Et au plus vite en général. Alors soit il y a plusieurs groupes qui passent et il y a un groupe qui passe juste après nous, et auquel cas faut enlever le matériel de la scène au plus vite pour que l'autre groupe puisse s'installer sans que le public ait à attendre une heure et demie. Donc en général on met tout ça dans un dégagement sur le côté et ensuite on plie tout dans leur grosse boîte. Et ensuite on plie tout. Nous on s'occupe de notre matériel et on le met dans le camion. Et à la fin du concert, toutes les personnes qui sont sur le lieu de l'événement, en général, le soir, rangent, donc ça va des poubelles à la bouffe, en passant par les gobelets de bière qui ont été oubliés par terre par tout le monde. Et il y a toute l'équipe technique qui démonte, en général, à moins que l'installation soit fixe, qui démonte les enceintes, qui démonte les lumières, qui démonte la scène, qui démonte tout. Et il y en a souvent qui sont très efficaces, qui font ça dans des temps records, et c'est fascinant à voir. Ils ont tellement envie de rentrer chez eux.
On va terminer par un petit questionnaire rendez-vous création.
Oh là là.
Donc il y a 6 questions. Qu'est-ce que tu as appris à l'école qui te sert le plus aujourd'hui?
À sécher les cours.
Qu'est-ce que tu as appris avec l'expérience qui te sert le plus?
À se remettre en question le soir avant de s'endormir.
Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta démarche depuis le début?
Je me suis remis en question le soir avant de m'endormir.
Qu'est-ce que tu vas faire différemment à l'avenir?
Je verrai bien, je sais pas.
Si un débutant dans la sonorisation de concert venait te voir et te demandait un conseil, ça serait lequel?
Écoute ce que tout le monde peut te dire, même si t'es pas d'accord avec. Et essaye de comprendre pourquoi les gens te disent ça et essaye de voir pourquoi c'est dit, ouais. D'écouter tout le monde et de vraiment de lire beaucoup aussi. Il y a énormément de bouquins qui sont souvent pas intéressants du tout, qui sont gavés de formules mathématiques. J'ai horreur des maths, j'ai horreur des sciences, et pourtant j'ai toujours réussi à comprendre à quoi servaient ces bouquins. C'est très important de lire, je pense.
Merci Frédéric.
Je t'en prie, merci Nicolas d'être venu, enfin.
Salut.
Salut.
Find how I want you to be mine. I'll be